Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec nous pour ce numéro d'Escapadez-vous en ce lundi 27 avril. Nous sommes en direct depuis les studios de Saint-Hippolyte du Fort avec quelques membres de l'association Chant contre Chant, ou autrement dit de l'asso qui s'occupe du festival Doc Seven à La Salle. Hein, tout le monde dit Doc La Salle d'ailleurs, je crois, en général. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ce festival. Je suis donc en studio avec Katinka, Lila et Joss. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Et voilà, on a pris au moins 3 minutes pour préparer cette émission avant la prise du direct. C'est ça, c'est bien, on est dans les starting blocks du lundi. Donc vous venez nous présenter, comme chaque année, c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience et qu'on reçoit avec plaisir. Donc la programmation de cette nouvelle fournée du festival Doc Seven en La Salle, donc, qui a lieu du 13 au 16 mai. On va déjà vous donner les dates. Et puis on peut aussi tout de suite d'ailleurs donner l'adresse du site. C'est Doc... Qui peut me dire le site internet exactement ?
Le site, ben, c'est à La Salle, il y aura 3 lieux principaux de projection.
Ah pardon, je pensais au site internet.
Ah, au site internet. Oui,
c'était pour que les gens puissent nous suivre en images. Des fois, ils font ça, tu sais, comme un livre pour enfants.
Ah, oui.
On va dire, et puis ils vont tourner les pages au fur et à mesure. C'est Doc...
Doc7.org, il me semble.
Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est là que vous pourrez trouver les infos pratiques de tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et aussi, surtout, eh ben, ouais, les horaires, tout ça, appeler. Et puis, pour les places, bah, il va falloir plutôt vous organiser comme il faut pour venir prendre vos places le jour même. Alors, on est donc sur la 25e édition, un quart de siècle pour ce festival, donc voilà, qui nous ramène à au millénaire précédent même, hein, je crois, pour les premières éditions.
2001. Avec
2001.
2002, le premier festival.
Ah, 2002, bah oui, non, je ne sais pas compter du tout, on est déjà en 2026, c'est vrai. Donc, on est sur le début.
C'est,
ouais, en fait,
ouais, c'est la 25e édition,
ouais,
cette année.
Donc, un bel anniversaire que vous allez célébrer dignement.
Nous
je l'espère, vous l'espérez, un quart de siècle, c'est pas mal. Festival de la maturité, peut-être.
Peut-être.
Alors, on s'est dit qu'on commençait cette émission, commence d'ailleurs le programme du festival, par un édito, et avec, comme chaque année, une thématique, en tout cas, des mots un peu pour essayer de comprendre l'ambiance, l'attitude, l'atmosphère qui va un petit peu diriger cette nouvelle édition. Est-ce que, bah, je crois que c'est Lila, tu veux bien nous en parler, ou Joss, comment est-ce que vous avez pensé et comment ça s'organise ce festival ?
Mais Lila va le faire parfaitement bien. Je vais le faire, mais je vais tout à fait reprendre les mots de Jean-François Nau, qui est donc le président de l'association Chant contre Chant, qui a écrit cet édito. Et voilà, comme chaque année, le festival de La Salle a une thématique, mais qui ne correspond pas forcément à la thématique des films.
C'est la thématique des gens qui font le festival.
Voilà, quoi. C'est ça. C'est une thématique qui est choisie par les membres de l'association, parce qu'il faut bien préciser que voilà, la programmation du festival est aussi choisie par les membres de l'association, et que cet édito, qui est plutôt un billet d'humeur, est écrit du coup par les membres de l'association, et là Jean-François Nau. Et ils ont choisi donc cette année « Sur quel pied danser ?». Et je vais vous lire quelques phrases qu'il a écrites. Sur quel pied danser dans le flot d'informations où le faux l'emporte bien souvent sur la recherche et la quête de vérité ? Sur quel pied danser dans nos sociétés tourbillonnantes ? Les documentaristes, en prenant le temps de la rencontre pour s'extraire du clash du buzz et des fausses informations virales, participent d'une écoute attentive. C'est un petit mot sur le documentaire, j'ai l'impression, qui nous invite à prendre le temps, voilà, des cinéastes qui vont à la rencontre de leurs personnages et qui prennent le temps long pour parler de leur sujet.
À contre-pied, alors, presque de cette espèce de d'afflux un peu violent d'images, hein, que nous procure l'actualité, et puis l'utilisation qu'en est faite de plus en plus violente aussi et instantanée avec les réseaux, du tout, du n'importe quoi, même des trucs faits par IA. Effectivement, le documentaire, là, c'est l'occasion de souffler un peu et de regarder vraiment les choses et les gens, et
exactement,
peut-être d'amener un autre récit.
Et une autre façon de penser aussi.
Ouais.
Et d'écouter.
C'est un festival qui est Et le documentaire, je pense, c'est un art qui est de toute façon politique en soi, de par sa forme et aussi la manière dont le festival Doc7 a toujours aussi travaillé à chercher à montrer des réalités d'autres pays ou faire réfléchir sur des situations actuelles en regardant le passé aussi parfois. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être aussi, Joss, nous parler un petit peu de cet assaut champ contre champ, justement? Qu'est-ce qui l'anime et comment vous travaillez à l'année pour préparer ces festivals? Comment vous choisissez peut-être aussi, tout simplement, je ne sais pas.
Comment nous choisissons
les envies, programmation. Ouais, comment ça se passe, un peu les coulisses?
Alors, il faut vous dire d'abord qu'en 2025, l'association a évolué. Avant, il y avait un président et maintenant, il y a deux coprésidents. L'association a été scindée. D'un côté, il y a le festival, d'autre côté, il y a le réseau. Et au milieu, il y a l'association Champ contre Champ qui porte tout et les salariés. Donc ça a été fait en novembre 2025. Voilà. Donc il y a le festival qui a lieu à la salle chaque année pour le week-end de l'Ascension. Et à côté, il y a le réseau qui fonctionne toute l'année. Le réseau qui rayonne sur l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aveyron. Donc il y a des projections tout au long de l'année par des bénévoles.
Oui, parce que c'est ça aussi, les associations, il faut le rappeler. Puis c'est un gros festival hein, quand même, ce festival. Et donc ça ne doit pas être rien à mettre en place. Est-ce que vous avez justement aussi dans l'équipe, bon, il y a les historiques, j'imagine, et puis des gens qui portent, mais est-ce qu'il y a du renouvellement aussi régulièrement, chaque année un peu?
Alors ça, c'est plutôt mitigé, voyez-vous. Nous sommes là, moi je suis là depuis 2011. Et le renouvellement est... C'est-à-dire que être bénévole dans une association, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Surtout quand il n'y a pratiquement que du bénévolat. L'association avait un salarié jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout au long de l'année, qui faisait tout secrétariat. Et là, les moyens financiers s'étaient un peu absentés. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que le sur quel pied danser, il fait un petit peu aussi justement référence à ces incertitudes qui touchent pas mal le milieu associatif, voire même le milieu culturel. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quel sens le vent va souffler. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi, à votre échelle?
Ah oui, bien sûr, ouais. Que oui, tout à fait. Là, les subventions, ça fait quelques années qu'elles baissent. Elles baissent. Et là, cette année, je ne sais pas, mais il va y avoir quelque chose qui va se produire. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Chaque année, on nous dit que les subventions vont rester là, mais elles disparaissent quand même.
Et pourtant, c'est un vrai rendez-vous quasiment institutionnel, hein, et au niveau national, peut-être même international, pour les réalisateurs et réalisatrices de documentaires, puisque vous avez aussi des ponts avec notamment Québec, enfin des films...
Focus
Québec.
Tout à fait.
Il y a de très nombreux films qui traitent de sujets internationaux, donc j'imagine que c'est des belles scènes pour faire résonner ces films-là aussi.
Nous avons la chance d'avoir l'aide précieuse de la mairie de La Salle, hein, qui nous subventionne bien et qui nous aide beaucoup. Après cette année, la mairie a changé, donc peut-être, je ne sais pas, normalement, tout doit se passer comme les années précédentes en relation avec la mairie. Donc, je vous dirai ça à la fin du festival.
Oui, on parlera de ça une autre fois, peut-être. Là, on est là pour célébrer ensemble les 25 ans et regarder un petit peu. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les films et de toutes les propositions parce que c'est très riche, mais on va quand même essayer de tisser des grandes lignes et puis de voir ensemble quelques sujets sur lesquels vous avez envie de mettre un petit coup de focus. D'abord, on va s'écouter un petit peu de musique, car il y a aussi de la musique au Festival de La Salle. Et on a dit qu'on écoutait d'abord un morceau du groupe Mastar. On vous en parle juste après. We'll be right back. c'est Numa du groupe Mastar en ce moment donné pour nous accompagner pendant toute cette petite heure, cette grosse demi-heure, on verra bien, pour parler en tout cas du festival Doc Seven à la salle. Et c'est un des groupes qui se produira sur scène, puisque le soir il y a aussi des propositions de concerts tous les jours, je crois, hein, sur les 4 jours, donc je rappelle du 13 au 16 mars. Non, ça fait 3 jours, ouais, faudrait que j'apprenne à compter un petit peu avant les émissions. Enfin, sur les anniversaires, sur le nombre de jours.
3 jours et 4 soirées. Le mercredi, ouais, la première projection est à 18h.
Voilà.
Ça fait 4 jours.
Et donc, il y a bien 4 groupes. C'est ça qui seront sur scène. J'ai le livret sous les yeux, hein, sous format PDF. Il fait 75 pages, chers amis. Donc, on va pas malheureusement pouvoir vous raconter tous les films en détail. Mais on va quand même peut-être. Parler des grands, on va dire des petits groupes que vous avez fait comme ça, les petits bouquets, comment est-ce qu'ils sont présentés donc, dans la sélection générale. Eh bien écoute, je crois que Lila, c'est la tâche qui t'incombe maintenant.
Tout à fait, tout à fait. En effet, on a plusieurs, le catalogue, vous pouvez le retrouver, il est en ligne et il sera aussi en vente au prix de 2 euros sur un papier pendant le festival. Un très beau document fait pareil collectivement, puisque c'est les membres de l'association qui écrivent les notices des films dans le catalogue. Je tiens à le préciser quand même, parce que c'est assez incroyable dans des festivals. C'est pas juste les résumés des films, c'est les comités de la programmation qui écrivent une notice sur le film. Donc pour vous en parler un peu de manière pas trop, on va dire, dynamique. On va essayer d'être dynamique. Il y a une sélection générale qui se compose de 13 films, qui a été composée à partir par un comité de programmation. Je crois qu'il y avait plus d'une centaine de films à visionner en tout. Ils en ont choisi 13. Voilà, l'exercice de programmation est toujours un peu difficile. Je rappelle que c'est un festival non compétitif, hein, donc c'est une sélection générale, mais il n'y a pas de prix. L'idée, c'est surtout la rencontre. Tous les films de la sélection générale passent 2 fois dans la semaine. Donc si jamais vous n'avez pas la place pour une fois, vous pouvez retenter à la deuxième.
Parce qu'il y a plusieurs espaces de projection aussi dans la salle, c'est ça ?
Tout à fait, ouais. Il y a 3 espaces de projection qui sont le temple, le foyer et la filature.
Ce qui permet donc de se faire un petit programme à la carte, de dire tiens, je vais voir celui-là à telle heure, puis celui-là là, puis celui-là.
Il y a 5 séances par jour, donc 15 au total, si vous avez bien compté comme il y a 3 lieux. Donc,
ouais.
Il y a possibilité de voir beaucoup de films pendant 3 jours et demi, donc... à base de 5 films par jour.
Voilà. Et oui, vous en avez au total, tu me disais, 31 bonnes...
Ouais, 32 films en tout, ouais.
Voilà, faites les calculs vous-même.
Voilà.
Organisez-vous bien, ça se prévoit en amont, en tout cas.
En tout cas, voilà, dans la sélection générale, il y aura 13 films qui passent tous, chacun 2 fois. Que vous dire sur ces 13 films, je ne vais pas les détailler, mais il y a des très beaux films français, des premiers films aussi, notamment Un feu de charme, qui fera l'ouverture du festival, qui a été tourné en Occitanie, pas exactement ici, c'est dans le Lot, mais qui parle de la thématique de la vie rurale. C'est un paysan qui coupe les arbres aussi. Un bûcheron, voilà, c'était ce mot qui me manquait.
Ah, donc en avant-première, là, on est sur vraiment...
Ouais. Okay. Ça sera à 18h. Il y a plusieurs films dans cette sélection générale aussi internationale, notamment Make It Look Real, qui est un réalisateur pakistanais. On a 2 films qui se passent au Brésil, Atlas Oculto et Même si tout s'écroule. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses à découvrir dans cette sélection générale de 13 films. Mais il y a plein d'autres trucs à présenter, alors peut-être je détaille pas tant.
C'est l'injustice de l'exercice radio, hein, c'est malheureusement. Ça. C'est aussi tes coups de cœur qui font un petit chemin comme ça.
On aura aussi, comme chaque année, une rétrospective, mais ça, Katinka va nous en parler un petit peu après, mais ça sera autour du cinéaste Denis Gerbrandt. Et Katinka nous présentera ses films un peu après. Une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, qui est un renouveau, on va dire, qui n'avait pas eu lieu les dernières années, mais on propose cette année 3 avant-premières. Donc du film Collapse d'Anat Event, qui est un film israélien. Le film All My Sister de Masoud Bashki, pardon, qui est un film iranien. Et enfin Tango Sin Miedo, qui est le film qui correspondrait le plus à la thématique Sur quel pied danser, de Luz Balania, qui est une habitante de la salle, une lassalloise, et qui parle du tango en Argentine, mais qui parle de plus que la danse aussi, des conditions politiques en ce moment. Donc ça, on est très contente de pouvoir proposer 3 films en avant-première. Comme ça, c'est pas un renouveau, c'est chaque année, on a aussi le Focus Québec, avec 3 films cette année. Shifting Baseline de Julien Ely, Dans la forêt de Pascal Ferland et Mais où va-t-on Coyote, et alors j'ai un trou évidemment dans le réalisateur, est-ce que de Jonan Malak, pardon. C'est trois films, Shifting Baseline, c'est là on est vraiment un peu loin de la salle, on va dire. C'est au pied d'une station de SpaceX, et avec la rencontre un peu de plein de personnes qui travaillent autour, ou alors des simples badauds. Dans la forêt, comme son nom l'indique, parle de la forêt, mais cette fois-ci canadienne, pas la forêt du Lot. Et Mais où va ton coyote, c'est un film sur à la frontière, une association qui travaille à la frontière en aide aux migrants, la frontière Mexique-États-Unis. Et j'espère que je ne vous perds pas trop, j'espère que vous prenez des notes. Je rappelle qu'on peut trouver le catalogue sur Internet. Je fais un petit focus aussi. Cette année, le festival fait un petit focus avec deux films thématiques sur Notre-Dame-des-Landes, Forêt rouge de Laurie Lassalle et Retourne vers nos futurs de Despina Matsakis, qui sont donc deux films documentaires qui parlent de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Forêt rouge plutôt pendant la mobilisation et Retour vers nos futurs après, sur ce qui s'est passé après sur ce terrain et tout ce qui s'est passé.
Est-ce que tu veux nous parler aussi de passeurs d'images ou quelqu'un nous en parler, puisque c'est quelque chose qui revient aussi chaque année, je crois, dans le Festival La Salle, et un partenariat historique.
Historique, non, on a un partenariat depuis 2020, passeurs d'accord. d'images, et sur le festival depuis 2020, enfin avec champ contre champ, pardon.
D'accord, et ça consiste en quoi alors ?
Passeurs d'images est un...
Une association d'éducation à l'image qui permet de faire des projets avec différents publics, plutôt la jeunesse passeur d'image.
Il y a un partenariat entre champ contre champ, passeur d'image, la trame et la mairie.
D'accord, donc c'est ça. Pour viser un public plutôt jeune aussi. Ouais.
Alors, à la salle, ce sont les enfants de l'accueil jeune. Nous avons un accueil jeune à la salle et les enfants de l'accueil jeune... font ce film avec Hélène et Raphaël Bottiveau. Hélène. J'ai oublié son
nom. Hélène.
Ça sera Hélène. Hélène et Raphaël.
Très bien.
Merci à eux.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose que l'asso fait à l'année aussi, la médiation envers les jeunes, les enfants, pour les initier, leur offrir aussi des projections, que ce soit à la salle ou peut-être autour dans le pays.
Alors, à la salle, c'est pas Doc Seven, c'est plutôt Cinéco qui offre le cinéma aux enfants de l'école.
Bien sûr.
C'est ça.
Mais est-ce que Doc La Salle a aussi des partenariats comme ça, en tout cas des actions qui se font
Oui. Ouais. Champ contre champ, un prestataire. Jusqu'à maintenant, c'était Cinefacto. Et depuis cette année, c'est la caravane film. Ouais. Donc, ils vont dans l'école de La Salle et ils font un film avec les enfants. Cette année, à La Salle, il y a un opéra qui se monte avec une intervenante qui s'appelle Barbara Del Piano. Elle va faire un petit opéra avec les enfants. Et c'est la caravane film, donc Luz Balana et Belinda Chesensky. Je suis désolée.
Oui, on les a déjà reçues. Elles ne nous en voudront pas, je pense. Si
je les remercie.
Belinda
d'avance.
Et Luz.
Voilà, elles vont faire un petit film de 15 minutes, je crois, qui sera diffusé le vendredi matin à la séance La Salloise.
Ok, donc les La Sallois pourront voir des La Sallois à l'écran.
C'est ça.
Circuit court, quoi.
C'est ça.
Super. Est-ce qu'il y a d'autres petits focus, points que tu veux nous présenter encore, Lila ?
Un dernier focus qui serait l'hommage à Frederick Wiseman, qui est un grand cinéaste documentariste américain qui est décédé en février dernier, qui a beaucoup de films à son actif, qui a travaillé beaucoup en France aussi, mais aussi aux États-Unis, qui a toujours beaucoup travaillé sur la question de l'institution en allant filmer des hôpitaux psychiatriques, aussi la justice énormément. Et donc, on a souhaité lui faire une place et lui faire hommage. On ne sera pas les seuls festivals de documentaires à faire ça, mais on en est très fiers. Et on diffuse, c'est aussi un clin d'œil aux 25 ans du festival, car on diffuse un film qui avait été passé la première édition en 2002, qui est Law and Order, un film de 1969 qui parle de la police à Kansas City. Et voilà, on vous invite à le voir, c'est un sacré chef-d'œuvre, monument du cinéma documentaire, et ça sera une belle soirée. Il me semble que c'est le vendredi soir au Temple.
Et juste pour rester sur les infos pratiques, les gens qui souhaitent donc venir voir des films concrètement, ils arrivent à la salle,
ils arrivent à la salle.
Peu en avance, et il y a une billetterie sur place, c'est ça?
C'est ça. On ne fait pas encore de vente par internet, peut-être l'année prochaine, mais c'est pas sûr. Pour prendre des billets, c'est sur place à la billetterie. Il y a aussi un pass 10 places qui existe, ou alors un pass festival qui peut être un peu plus avantageux au niveau des prix. Mais sinon, c'est tout se passe à la billetterie sur la place du village, qui ouvrira ses portes le mercredi à 13h pour la première séance, qui se passera le mercredi à 18h. Et ensuite, elle sera ouverte tous les jours. Et il ne faut pas hésiter à prendre les places en avance, car ça se remplit vite.
Oui, voilà. Mais après, la place du village de la salle est de toute façon bien occupée pendant le festival. Il y a de quoi faire s'il faut patienter entre deux films. Il y a des stands, je me rappelle de mémoire qu'il y avait des libraires qui sont là à manger, à boire. C'est festif aussi comme moment. Ça reste un festival aussi. Donc, il y a les projections, les gens entrent et sortent des salles, mais il y a aussi toute une vie
sur la place
la place s'anime pendant tout ce moment-là. Mais n'hésitez pas donc à arriver pas un quart d'heure avant le début du film que vous voulez voir, parce que ça risque d'être décevant.
La billetterie ferme, je crois, 10 minutes avant la projection. Donc il faut y aller quand même un petit peu avant.
Voilà, puis c'est l'occasion de voir s'il y a déjà des places, s'il reste des places pour l'autre film que vous vouliez voir après, etc. Enfin voilà, faut vous organiser, hein, comme des grands, on s'autonomise un petit peu.
Le catalogue, comme je disais, est déjà en ligne, et la grille horaire, donc avec les horaires des films, va sortir cette semaine, a priori.
Très bien. Alors, comme on est là quand même pour parler de films, on va pouvoir écouter une petite bande-annonce qui nous permettra aussi de parler d'un autre focus qui est prévu pendant ce festival. On l'écoute et puis on en parle juste après.
Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier de France pour des faits à caractère politique.
Effectivement, c'est un cas unique. Hein.
Un attaché militaire américain est tué à Paris. Un numéro 2 de l'ambassade d'Israël est tué à Paris.
Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah.
Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux.
Il est en prison pour les actions en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986.
Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes.
Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Et comment ne pas se poser des questions lorsque...
Vous n'avez jamais douté de ce que la
Mais
police
si,
disait.
Mais si, bien sûr.
Oula, on a écrit des bêtises quand même.
En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle.
Il y a plusieurs demandes à nouveau de libération, toutes rejetées.
Toutes rejetées.
Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux.
We don't think he should be released.
Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues.
Mais la France est un pays indépendant.
Abdallah.
Georges Abdallah.
Georges Abdallah.
C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière.
Une pensée pour Georges Abdallah.
Voilà, vous l'aurez entendu, c'est un film qui parle de l'affaire Georges Abdallah, de la condition de plus vieux prisonnier de France, prisonnier politique.
41 ans.
Combien tu dis ?
41 ans en prison.
41 ans en prison.
C'est ça.
Une histoire qui vient juste d'avoir un dénouement il y a très peu de temps, hein, puisque c'est vraiment l'actualité.
En juillet 2025.
Là. Voilà. Il a été donc...
Il a été libéré.
Libéré et il est toujours en France ?
Ah non, il avait l'interdiction d'être sur le sol français. Donc il est parti directement au Liban.
Voilà, donc en tout cas, une affaire très très récente, très politique. Hein, ça fait des décennies aussi que des militants, des assos justement, militent pour sa libération, puisqu'il a été condamné, on va dire, sur base de preuves plus que douteuses. J'imagine que c'est de tout cela dont parle ce documentaire. Donc, on n'a pas dit d'ailleurs, un documentaire de Pierre Carle.
Pierre Carle, journaliste, réalisateur de documentaires. Pierre Carle est quelqu'un qui vient régulièrement sur le festival de la salle. En 2025, il est venu présenter la guérilla des FARC. Et cette année, il vient nous présenter Georges Ibrahim Abdallah. Voilà.
Donc c'est un invité que vous avez souvent. Et
souvent.
Il a sa petite place.
C'est ça, il a toujours sa petite place. C'est ça. En plus, il a un cinéma qui est à son image. Il est mordant, têté, idéaliste. Il s'est fait connaître en 92, je crois, en dévoilant l'imposture de la fausse interview de Fidel Castro par PPDA. Et je crois que ça remonte à là.
Ouais. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet politique, mais aussi beaucoup au traitement médiatique qui en est fait.
C'est ça.
Il montre un peu les dessous de l'image. Il a d'ailleurs été un peu pas banni, mais très vite, il a montré les secrets que certains dans le milieu ne veulent pas dévoiler.
Et oui, il a travaillé sur striptease aussi, il faisait des courts-métrages.
Ouais. Donc un rapport au réel, en tout cas, très particulier.
C'est ça. Mais l'affaire Abdallah, il y a les médias, il y a la politique, il y a l'État, il y a tout. Georges Ibrahim Abdallah devait être libérable en 99, je crois. Et après ça, il a fait 12 recours pour être libéré. Et ces 12 recours ont été rejetés. Tout ça parce que il y avait toujours le prétexte pour ne pas le libérer. Et la première fois, c'est M. Valls qui a refusé la première demande qui est faite.
Donc ça, c'est un des focus. Est-ce qu'on a on peut donner les jours de la projection ?
Il passera le samedi. Voilà, c'est un jour le plus accessible, à 13h45 à la Filature.
Voilà, pour le rendez-vous annuel avec Pierre Carle et ses sujets toujours, toujours piquants. Puisqu'on est dans les focus, est-ce qu'on peut donc revenir, enfin est-ce qu'on peut maintenant découvrir surtout qui est Denis Gerbrandt, car moi j'avoue que je ne connais pas ce réalisateur. Alors peut-être j'ai vu des films de lui sans imprimer. Katinka, tu veux nous faire une petite présentation de ce focus ?
Avec plaisir. Pour cette édition du Festival de Xévennes, on a l'honneur d'accueillir Denis Gerbrandt, dont le cinéma documentaire se tient vraiment au plus près des êtres et des lieux. Et à travers ses films, il nous montre combien il n'est pas nécessaire d'être d'accord pour s'entendre, de venir du même monde pour cohabiter, de se replier pour se sentir en sécurité. Et il est plutôt dans une ouverture aux autres. Et il a une caméra très attentive, il communique super bien avec les personnages de ses films. Il noue, j'ai l'impression, des relations très très fortes. Et surtout, il a une caméra non intrusive. Et c'est ça qui rend la chose très agréable, je pense, pour les filmer et pour les spectateurs.
Et alors là, par exemple, pour avoir un réalisateur comme ça sur une édition, comment est-ce que vous y prenez ? C'est une envie qui émane dès les prémices de la future édition et vous les contactez. Comment est-ce qu'on fait arriver ces moments-là, en fait, pour un festival ? C'est magique, ça arrive tout seul.
Tout commence par un mail, j'imagine.
la rétrospective est choisie par les membres du comité de sélection. De sélection, ouais. Et Denis Gerbrandt, c'est vrai, étant un des grands. Il a 25 films à son actif, quand même, de sa carrière. Mmh. On en montrera 5 pendant le festival. Voilà, ça a été un des choix du comité de programmation de mettre en valeur et en honneur ce réalisateur. Et il sera là tous les jours.
Très bien. Alors, on voulait vous faire écouter un petit extrait d'un vieux film à lui, c'est ça ? C'est Et la vie ?
Et la vie, sorti en. Pardonnez-moi, 1991.
Alors écoute, j'ai perdu l'extrait qu'on avait, mais j'en ai un autre. On va écouter celui-là, avec Lina. Voilà, sachant que les bandes annonces à la radio, des fois c'est pas très visuel. Ouais, c'est pas le meilleur extrait que j'ai choisi, je crois. C'est ça. Je jongle avec Internet en même temps, et du coup, je l'ai perdu l'extrait qu'on voulait. Bon, on va vous le retrouver, peut-être on le mettra un petit peu. Un petit peu de musique, c'est sympa aussi. Dis-moi, oui.
Bah, si vous voulez, je peux vous parler de ces films.
Bah ouais, avec plaisir, on est là pour ça, on est là pour parler cinéma et documentaire.
Et ben, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir découvrir son tout premier film, et personnellement mon préféré, qui s'appelle Un printemps de Square. Donc, il le tourne en 78, et d'ailleurs, il me semble qu'il va le remonter beaucoup plus tard, en 2022, il me semble. En tout cas, c'est la fin des années 70. Le film semble être une sorte d'improvisation permanente pour capter le réel. Mais quand on regarde de plus près, on devine que le langage cinématographique opère de façon très construite. Y a une écriture assez fluide dans la proximité, la connivence avec les personnages filmés. Il y a beaucoup de questions qui n'attendent pas de réponse. On est dans des colocations parisiennes et puis dans des squares. Et puis voilà, en fait, c'est surtout énormément de moments de vie et de liberté, de la jeunesse, liberté des récits et des paroles audacieuses. Donc voilà, c'est le printemps. Et dans ce premier film, largement autoproduit, on trouve toute l'indépendance à venir des films de Denis Garbrandt.
Super, merci. Tu écris des chroniques des films, c'est chouette. Eh ben, j'ai retrouvé entre-temps, ça m'a permis de remettre la main sur le petit bout de la bande-annonce du film Et la vie, donc, où il y a cette fois-ci des acteurs qui parlent, ça sera plus sympa pour vous. Je vous mets ça.
Langue.
Ah, c'est de longue haleine, hein. C'est petit à petit. Hein. Et c'est vrai qu'on n'est pas des héros. Hein. C'est pour ça, Robert, moi je dis, c'est, on n'est pas des héros, moi je dis. Hein. C'est vite fait, hein.
C'est quand même un sacrifice au départ.
C'est un sacrifice au départ.
C'est ça la question que j'avais posée.
Ouais, c'est quand même un sacrifice au départ, parce que bon, bah, le premier qui est, c'est bon, bah, t'es quand même, dans un sens, t'es, bon, tu défends le droit de l'ouvrier, mais t'es puni en même temps.
T'es en première ligne.
Ouais, t'es en première ligne, c'est ça le problème. Donc, automatiquement, tu vas te faire mal loi, parce que c'est toi qui parles à la direction. Et après, c'est là qu'il vient les problèmes des promotions, qu'ils arrivent. D'accord.
Mais dis pas que dans des usines comme les nôtres, on a des promotions. Dans le textile, ça fait 13 ans que je bosse, ça fait 13 ans que je suis emballeuse. Même du temps que j'étais pas déléguée, ils m'ont pas donné de promotion.
Mais ils vont pas te faire de promotion parce qu'ils savent très bien que tu ne vas pas l'accepter, c'est ça le problème.
Mais non, mais même avant, si. J'étais pas déléguée, Robert. Des boîtes comme nous, il n'y a pas de danger qu'on aura des promotions dans quelque chose.
Mais de toute façon, vous n'avez aucun espoir, c'est ça que tu dis.
Des espoirs, pas pour des promotions, tous les cas. Espoir, j'ai espoir dans beaucoup de choses.
Voilà, vous n'en saurez pas plus pour là. C'est un teaser, c'est donc un extrait de Et la vie, aussi un de ses premiers films, c'est ça, tu disais ?
Ouais, il est sorti en 91, et en fait, c'est pendant un an, Denis Garbrandt s'est rendu à Marseille, à Charleroi, à Bruay, à Genève, et dans des banlieues industrielles en déclin. Et il est parvenu à nouer, voilà, comme je vous disais, des amitiés très très fortes. Et donc, il a pu aller jusque dans les foyers, discuter avec les ouvriers et ouvrières, et souvent des personnes qui sont syndiquées et qui ont pris action pour lutter pour une vie meilleure.
C'est ça qui est fort dans cette forme d'art, dans ce cinéma documentaire, c'est qu'on est souvent avec juste le réalisateur ou la réalisatrice, la caméra, et avec des vrais gens qui parlent de vrais problèmes, et c'est une expérience de, je pense, de transport ou d'empathie, en tout cas incroyable, qui est dure à rendre autrement dans... Même si les fictions y arrivent des fois très bien, mais ça demande plus de boulot. Là, c'est juste savoir être au bon moment. Et comme tu dis, ça implique forcément une relation forte entre la personne qui fait le film, qui tient la caméra, et c'est les sujets. C'était pareil pour Pierre Karl. Il y a une notion de confiance, je trouve, qui est forte. Et c'est presque gênant. Mais en tout cas, on est très, très heureux de pouvoir aussi bénéficier de ces moments-là, alors que nous, pourtant, ne sommes pas allés sur le terrain, ou des fois, c'est des sujets dont on ne connaît pas grand-chose, mais c'est une manière de rentrer vraiment très, très, très cash dans la réalité, quoi.
Et c'est des moments magiques, parce que parfois, tu t'attends pas à ce qui va se passer. Ça arrive, mais ça arrive naturellement.
C'est l'ouverture parce à l'imprévu, c'est à ça. L'accidentel.
Ouais. Et oui, on oublie la caméra et le micro.
Bon, en tout cas, pas d'accident, tout est très bien prévu pour cette 25e édition du Festival d'Auxevennes à la salle. Il y a encore donc de nombreuses petites rubriques qui sont présentes dans ce programme. Est-ce qu'on en évoque encore quelques-unes ? De toute façon, il va falloir à un moment donné renvoyer les auditeuristes vers la programmation. Il y a certainement des choses. Il y a encore deux petites choses, en tout cas, que Lila aimerait transmettre.
Petite chose sur Plus en soirée, dire que le mercredi soir, il y aura un ciné-concert pour l'ouverture du festival après la dernière projection, donc sur les coups de 22h30, 22h45, sur le thème des vacances et des congés payés, une sorte d'histoire des congés payés sur des archives personnelles, beaucoup de l'Institut Jean Vigo, accompagné par une musique jazz-punk-poésie. Ça promet d'être chouette le mercredi soir. Et le samedi soir, voilà, je fais un peu les soirées d'ouverture et de fermeture. Mais on renouvelle aussi, on renoue avec une tradition qu'avait la salle, qui était aussi de montrer d'autres types d'art. Et on repart vers le théâtre, ce qui avait, je crois, été déjà fait dans les éditions précédentes. Ça faisait quelques temps que ce n'était plus le cas. Et on aura la chance d'avoir une pièce de théâtre documentaire, ce qui est assez original et je pense... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu, mais voilà, c'est un travail documentaire qui est fait. Et donc, ce n'est pas du théâtre de fiction, mais du théâtre documentaire. Un spectacle qui s'appelle Les Imprudents, d'une compagnie d'Ardèche, qui parle de la résistance dans un village pas loin d'ici, donc en Ardèche. Et ça, c'est le samedi soir, pardon, à 21h, à la Filature.
Puisqu'on cite tous les artistes qui contribuent à cette 25e édition et de manière générale chaque année, on a parlé de musique. Est-ce qu'on peut citer aussi les quatre soirées? Donc il y a de la musique les quatre soirs, hein, c'est ça, sur la place du village, après les projections?
Après les projections, ouais, à partir de 22h30, il y a de la musique tous les soirs, parce que c'est bien de...
Comme ça, on peut débriefer sur les films en écoutant de la musique.
Ou on peut se défouler un peu, ouais, d'avoir été trop assis devant des films. En tout cas, il y a DJ... Fac 3 ID le mercredi soir, Mastar dont on a... C'était pas comme ça qu'on...
Je pense qu'on
l'appelle
mieux
DJ Samira, mais ouais, ID, voilà.
Fake ID.
Fake ID. Mastar le jeudi soir dont on a écouté un extrait, The Cardabels le vendredi soir, blues de comptoir et folk rugueux, selon leur description. Et le dernier soir, les fanfarons qui sont des grands habitués du Festival de la Salle.
Qui nous aideront à clôturer cette émission d'ailleurs. On a un petit extrait à eux. Eh bien, c'est bien, c'est parfait pour les musiciens, on ne les oublie pas. Puis à la salle, ils sont nombreux et nombreuses à participer à tout cela. On peut rappeler du coup comment est-ce qu'on retrouve les informations sur tout le festival, éventuellement s'il y a des possibilités sur Internet, des réseaux sociaux. Je crois que vous avez une chargée de com', dis donc, avec nous.
Mais absolument. On a un Instagram qui est très, très bien fourni, je peux vous le garantir, parce que c'est moi qui m'en occupe. Donc on a en fait, en partie évidemment. Mais donc on a toutes les horaires qui sont indiqués en fonction des films. Généralement, les films sont projetés deux fois. Voilà, sauf pour les séances en partenariat. Et on a aussi un Facebook. Et donc tout ça, c'est Doc7. Et normalement, c'est très facile de retrouver.
Instagram aussi, c'est Doc7?
Oui.
D'accord, voilà.
Facile. Et le site, du coup, doc7.org, qui pour l'instant est un peu bloqué. Si vous y allez, vous verrez des petites pages de bugs, mais on espère.
Il n'y a pas encore un programme 2026 tout de suite.
Voilà, c'est ça. Ne vous fiez pas au site, c'est encore le programme 2025.
Ah, il donne envie, hein. J'y suis allé tout à l'heure, je suis dit, ah bah super, ah bah non, c'est
ouais. Bon, mais on essaye, on devrait pouvoir le remettre en marche cette semaine. Voilà, c'est doc7.org. De toute façon, la grille horaire n'est pas encore publiée ni sur les réseaux, ni sur le site. Ça viendra cette semaine.
Oui, il vous reste encore un petit peu de temps pour vous préparer. Là, ça va. On
15 jours.
À 15 jours.
15
ça.
Jours.
Ça ouais.
On y travaille fort.
Ça va, les préparatifs, justement. Là, ça, c'est une dernière quinzaine, j'imagine, toujours un peu intense. Et au niveau bénévolat, est-ce qu'on peut en parler aussi et peut-être passer un petit appel à la radio? Est-ce que vous avez besoin éventuellement de coups de main pendant le festival? Est-ce que l'équipe est toujours heureuse d'accueillir des nouvelles énergies, même à 15 jours du festival? Je ne sais pas.
Tous les coups de main sont toujours les bienvenus. Et à 15 jours du festival, c'est là qu'on prépare le plus, c'est là qu'on a le plus besoin de bénévoles. Parce que là, il faut fonctionner. Jusque-là, c'était plus de la théorie, là on rentre dans la pratique.
Et en théorie, tout se passe bien.
En théorie, tout se passe bien.
C'est pour ça qu'on voudrait y vivre.
Voilà.
Mais oui, c'est une soixantaine de bénévoles quand même sur le festival, répartis sur les différents pôles, donc qui sont la billetterie, la buvette, l'entrée des salles, la technique. Enfin, il y a tout un tas de tâches.
Et est-ce qu'on peut aussi juste donner quelques infos pour les gens qui ont envie de venir d'un peu plus loin, de passer plusieurs jours sur place? Il y a moyen de camper, de trouver des logements sur la salle?
Oui, bien sûr. Il y a un camping à la salle. Il y en a même deux. Enfin, il y en a un qui est sur la commune de la salle. C'est le camping de la salle Andrec.
Ouais.
Et il y en a un qui est sur la route d'Anduze, qui est beaucoup plus grand. Après, il y a des gîtes. Il y a des locations. Hein. Vous allez sur Internet.
Avec la mairie, peut-être.
Ouais. La mairie, oui, bien sûr. Et après, nous avons une spécificité, nous, par rapport au festival. C'est que les invités du festival sont logés chez l'habitant, pour la majorité d'entre eux. Et ça, c'est un petit peu...
Ça fait des belles rencontres et ça laisse des souvenirs. Hein.
C'est ça. Ouais. Et merci à tous les hébergeurs qui nous prêtent leur maison ou leur chambre.
Ouais. Et au niveau du public, j'imagine que vous commencez à le connaître aussi et à voir, c'est quoi ? C'est un des aficionados qui sont là tous les ans, ou vous observez selon les thématiques peut-être des gens qui viennent plutôt au gré des propositions, ou alors c'est vraiment des gens qui viennent les yeux fermés, quoi qu'il se passe ?
La moitié des deux. Nous avons un public qui rajeunit, parce que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de cheveux gris. Et là, les cheveux prennent de la couleur.
Ouais, donc, plus de couleur.
Et plus de couleur.
Grâce à Paul Valéry, d'ailleurs.
Oui.
À l'université.
Ah, oui, avec la fac, bien sûr.
Il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants en ouais. cinéma qui viennent chaque année.
C'est ça.
Il y a aussi une partie des bénévoles viennent de Paul Valéry.
Ah oui, d'accord.
Beaucoup ouais. de volontaires.
Il y en a une trentaine qui viennent ouais. de Paul Valéry. Et après, c'est ce qui est magique, c'est qu'ils reviennent comme festivaliers.
Mmh. pour
et de temps en temps, paf, ils font un peu bénévole.
Ou stagiaire.
Ou stagiaire.
On n'aimera personne. À vous de deviner qui est qui dans la salle. Bon, en tout cas, merci à toutes les trois d'être venues représenter
merci
le festival d'Auxevennes et l'asso Chant contre Chant. Je redonne les dates, c'est du 13 au 16 mai. Vous y êtes donc bienvenue en bénévole, en simple spectateur. Oui,
c'est sur quel pied danser ?
Sur quel pied danser, voilà, vous le découvrirez. En tout cas, prenez vos deux pieds quand même, vous pourrez dans tous les cas danser les soirs.
Oui.
Et pour les réflexions philosophico-politiques, et ben justement, faudra voir ça collectivement sur place à l'issue de toutes ces projections. Eh bien, on va terminer en musique. Comme ça, nous, on sait sur quel pied danser ici. On va terminer avec les fanfarons, qui sont la fanfare de la salle, hein, si oui. je ne dis pas de bêtises. Donc, partenaire historique aussi du festival.
Et un petit coucou à Fifi qui nous a quittés cette semaine.
Eh bien, on pense à lui et on écoute donc Tiger Rag des fanfarons. Merci à toutes les trois. Bon préparatif. Et puis, les auditeurs, les auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Allez, bonne suite sur les ondes de Radio Escapade.
Au revoir.
Au revoir.
Abad.
Et vous.
En studio. Ou en balade autour d'un micro.
L'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.